RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce jeudi pour vous accompagner pendant 50 minutes. On est ensemble jusqu'à 19h. Évidemment, la situation des agriculteurs français est en fil rouge de cette émission. Dans quelques instants, on se posera la question de l'économie agricole française avec la question d'écho de Gérard-Marie Henry. On retrouvera également Hervé Chabot qui a été pendant de longues années journaliste, rédacteur en chef au journal L'Union. Il n'a pas perdu sa plume d'éditorialiste. Il posera son regard sur cette actualité qui vient bousculer donc le monde agricole. Au programme de cette émission, ce soir nous serons avec un maire qui nous parle, Jannick Lombard, qui est maire de Launois-sur-Vence dans les Ardennes, et puis nous serons avec une autre maire, celle d'Épernay, Christine Mazzi, qui nous présentera les projets pour 2024 du côté donc de la commune sparnassienne. Voilà pour le sommaire de cette émission. Vous aurez un petit bonbon, une petite sucrerie, une petite surprise en fin d'émission. C'est la chronique de 140 secondes de Suzanne Joss qui posera un thème d'actualité perçu par les jeunes. Ils sont deux à m'accompagner ce soir dans les studios de RCF, nos stagiaires à la rédaction. Elsa Gillot nous présentera la météo. Bonsoir Elsa.
Bonsoir Alexis.
Et puis également Pierre-Louis, notre stagiaire de 3e à la rédaction. Bonsoir Pierre-Louis.
Bonsoir.
Ce soir, vous êtes, comme on dit, au chômage. Vous êtes là en observation. Vous nous écoutez simplement. Si vous voulez intervenir, vous levez la main. On vous donne la parole. C'est une émission participative.
Exactement.
Voilà, pour le sommaire, on commence par la question d'économie. C'est avec Gérard-Marie Henry. Bonjour.
Bonjour Alexis.
On ne va pas être original, mais ce qui agite la France depuis quelques jours, c'est la situation des agriculteurs et de l'agriculture française d'une manière générale. Gérard-Marie Henry, dans cette question d'économie, si l'on fait une photographie du monde agricole en France, que faut-il en retenir à date ?
Eh bien, que les agriculteurs français, malheureusement, sont moins productifs que leurs concurrents européens. Que ce matin, j'ai fait des courses dans un hypermarché, j'ai regardé les produits qui utilisaient du poulet, hein, des trucs un peu transformés, pas le poulet cru, mais les choses transformées. Et systématiquement, c'était marqué poulet UE, c'est-à-dire qui vient de l'Union européenne et qui n'est pas fait en France.
Comment on explique que les agriculteurs français soient moins performants que leurs homologues européens, alors que la plupart des normes agricoles, elles sont données justement par l'Europe, mais en France, j'ai l'impression qu'on enfonce le clou.
Effectivement, il y a des règles françaises qui sont un peu supérieures à celles de l'Union européenne, et effectivement, les agriculteurs ont le droit de se plaindre, pourquoi on fait une surexposition à ces normes, mais c'est pas vraiment le fond du problème. Le fond du problème, c'est que les agriculteurs français travaillent sur des installations qui sont plus petites que celles de leurs concurrents. Quand on compare ce qui s'est passé en France et en Allemagne depuis 15 ans, on s'aperçoit que les Allemands avaient prévu qu'il y aurait suppression des quotas. On avait en Europe, en Union européenne, des quotas sur le sucre, des quotas sur le lait, etc. Et donc on attribuait à chaque producteur une petite partie de la production. Il avait le droit de faire 200 000 litres de lait, il avait le droit de faire tant d'hectares de betteraves. Et puis à un moment donné, on a dit, mais c'est quand même lamentable, on va supprimer ces règles. Et effectivement, à partir de ce moment-là, bah, ceux qui vont étendre leur production, qui avaient un cheptel de 100 vaches et qui passent à 200, ils vont avoir un coût du lait qui va être moins élevé. Il va avoir un coût de la betterave qui va être moins élevé. Et donc, ils vont être plus compétitifs. C'est ce qu'ont fait les agriculteurs allemands. C'est ce que les pouvoirs publics allemands ont encouragé les agriculteurs allemands à faire. Alors qu'en France, les syndicats agricoles, les jeunes agriculteurs, la FNSEA et le gouvernement ont dit qu'il faut continuer à défendre l'agriculture familiale. Donc, pas de ferme à 1000 vaches, pas de trucs comme ça. On ne veut pas une agriculture industrielle. Et si on ne veut pas une agriculture industrielle, évidemment, on est moins compétitif.
Le fond du problème de l'agriculture française, Gérard-Marie Henry, si l'on vous écoute, on a l'impression qu'il est profond, c'est un mal profond et qu'il est surtout structurel.
Tout à fait, c'est le problème. Alors donc, on va sans doute trouver des solutions immédiates. On va abandonner la détaxation du gasoil qui avait été mise en place et qui a été le choc qui a déclenché un peu le problème des agriculteurs. Avant, ils avaient un gasoil détaxé, donc ils payaient moins cher. Et là, on leur a dit, bah, il faut faire comme tout le monde, maintenant vous allez payer le prix plein pot. Donc on va peut-être revenir là-dessus, ou on va leur faire payer le prix plein pot et on va leur rembourser, mais ça ne changera pas le fond du problème que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des différences de productivité qui deviennent de plus en plus importantes, puisque non seulement on a des concurrents européens, mais on a aussi des concurrents qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Or, l'Europe a signé un certain nombre d'accords de libre-échange avec des pays qui ont une agriculture qui, là aussi, a des dimensions qui sont beaucoup plus importantes. Le poulet brésilien de base, celui qui sert à faire des nuggets, etc., coûte à peu près 3 fois moins cher au kilo que le poulet français. Donc, vous comprenez que les producteurs Ertaf, Indus, etc., bah, quand ils mettent du poulet dans votre petite gamelle, ils préfèrent acheter du poulet qui vient de l'extérieur.
Ce qu'il faut retenir, Gérard-Marie Henry, c'est que là, concrètement, l'État va se pencher sur le problème des agriculteurs. Il va y avoir des solutions immédiates qui vont être prises, mais ce n'est pas des solutions pérennes sur le long terme.
Non, parce qu'en fait, il y a toute une série de facteurs franco-français qui se coalisent pour maintenir cette agriculture dans une sorte d'infantilisme. On a d'un côté l'opinion publique qui ne veut pas non plus des fermes industrielles parce que c'est trop gros, ça sent mauvais, etc. Vous avez les pouvoirs publics qui disent il faut faire de l'agriculture bio, alors que le consommateur s'aperçoit que bio c'est cher et il n'est pas forcément acheteur. Donc on a en ce moment un énorme problème de l'agriculture dite biologique. Alors, ça ne veut rien dire comme terme, tout est biologique. Mais là, notre agriculture dite biologique, elle n'utilise pas d'engrais, etc. Donc elle a encore une productivité plus faible. Elle a encore des coûts de production plus élevés, 40% à peu près de plus que l'agriculture normale. Et là, on a toute une sorte de pression pour continuer dans cette direction. Il faut faire de l'agriculture bio, il faut garder une agriculture familiale, il faut installer de jeunes agriculteurs qui vont être endettés et qui, dans 10 ans, 15 ans, vont pleurer parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser leurs emprunts. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être très difficiles à changer, puisqu'il y a dans notre tête une histoire de « il faut une agriculture saine, il faut une agriculture protectrice de l'environnement ». Et évidemment, tout ça, ça coûte cher et on achète autre chose.
Vous le savez, Gérard-Marie Henry, il y a une sorte de continuité dans les programmes de RCF. Et on disait dans le magazine régional mercredi soir, lors d'un débat, qu'il y a aussi un problème au niveau de la législation. À l'époque, on prenait des décisions, des lois qui étaient prises par le gouvernement. On les mettait en place pour 25 ans, ce qui permettait d'avoir un retour sur le long terme, de voir les choses évoluer. Maintenant, on prend une loi, on la met en place, elle dure 4, 5 ans. Le problème n'est pas résolu, on en prend une nouvelle et puis on retombe de nouveau dans un imbroglio, etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faudrait prendre des lois structurelles qui durent dans le temps?
Oui, mais encore une fois, on est dans le carcan des décisions européennes. Il y a 4 ans, on a sorti au niveau européen un truc qui s'appelle « De la ferme à la fourchette », qui est la ligne directrice que doivent suivre les agriculteurs européens et qui fait râler un peu dans tous les pays, puisque les agriculteurs hollandais, etc., eux aussi commencent à protester. Et donc ce cadre institutionnel, c'est pas un cadre français, c'est un cadre européen. Les agriculteurs anglais sont très contents, eux, d'avoir le Brexit qui leur permet d'échapper à cette ligne directrice européenne qui est un peu excessive et qui va faire que non seulement l'agriculture française va continuer à avoir des difficultés, mais toute l'agriculture européenne est en train de pâtir de cette direction que personne au monde ne prend.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire évoluer les mentalités et surtout faire évoluer les décisions que l'on va prendre et les accords aussi peut-être qui ont été pris précédemment, Gérard-Marie Henry?
On va voir si les élections européennes de juin modifient un peu la donne et arrive à faire qu'il y ait un Parlement européen qui revienne un peu sur ce qu'il a décidé dans les années précédentes.
Alors évidemment, c'est j'allais dire un point de chute, ces élections européennes, mais d'ici là, il faut quand même que les agriculteurs retournent au travail pour nourrir la France. Il faut aussi que les Français puissent circuler parce que les blocages continuent. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'on peut faire à court terme d'ici le mois de juin, Gérard-Marie Henry?
Donner de l'argent aux agriculteurs, donner de l'argent public, de l'argent des autres aux agriculteurs. Par exemple, ils demandent que les primes PAC qu'ils n'ont pas eues parce qu'ils ne respectaient pas les règles européennes, leur soient versées. Ils demandent à ce que le gasoil continue à être détaxé pour leur utilisation, etc. Et ça, le gouvernement va sans doute lâcher du lest pour éviter le renouvellement de quelque chose qui ressemble un petit peu à l'histoire des gilets jaunes.
Évidemment, tout cela est un petit peu compliqué à chiffrer, mais on est quand même dans la rubrique questions d'économie. Gérard-Marie Henry, ça peut coûter combien?
Quelques milliards d'euros.
Ce n'est pas rien quand même,
non,
parce
non.
Que cet argent-là, il va encore falloir le trouver dans
absolument,
les caisses de l'État,
absolument.
Et c'est
moment,
le contribuable qui va payer tout ça.
Oui, on a un dérapage budgétaire avant les mesures qui vont être prises pour calmer. Alors des mesures que je pense assez logiques sur le plan politique, il faut débloquer les routes, il faut que les agriculteurs retournent chez eux et aient l'impression qu'on les aide. Mais c'est des mesures qui ne vont pas, encore une fois, remettre les choses au point sur le long terme. Et là, ça, je pense que ça va être très dur. On espère toujours trouver des solutions miracles.
Et on lit toujours l'économie à la consommation. Ça sera ma dernière question. Comment peut-on faire pour l'auditeur de RCF qui a envie de soutenir l'agriculture française? C'est quoi la bonne démarche?
Au lieu d'acheter du poulet en boîte, acheter un poulet entier. Et là, généralement, il est français. Et acheter du poulet entier, par exemple, de producteurs comme Loué, qui ne sont pas bio, mais qui font un poulet qui a une durée de vie plus longue, qui est nourri correctement, etc. Mais qui, évidemment, au Clio, coûte à peu près deux fois plus cher que le poulet bas de gamme qu'on va vous rôtir. Et donc là, est-ce que le consommateur peut faire ce choix? C'est pas évident.
Ça veut dire qu'il faut mettre la main au portefeuille, faire l'effort de soutenir directement l'agriculteur pour être peut-être derrière moins taxé et ne pas avoir cette répercussion. C'est tout un calcul à faire, chacun de son côté.
Ouais, non, enfin, quand je sais qu'il faut que je mette plus cher, je sais bien qu'on ne me rendra pas en baisse d'impôt la différence et donc bah, je vais peut-être aller sur le produit premier prix. C'est pour ça que l'agriculture bio coince.
En tout cas, merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur la situation agricole en France et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nous, on prend à 18h20 la direction de Launois-sur-Vence dans les Ardennes, retrouver Yannick Lombard. C'est le maire qui nous parle aujourd'hui avec Jean-Pierre.
Yannick Lombard, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous et merci de répondre à chaud à notre invitation parce que à Launois-sur-Vence, on vous avait présenté il y a quelques semaines. On va quand même rappeler quand même combien d'habitants à Launois, tous les Ardennais connaissent. On connaît un peu moins dans la Marne, mais encore que parce qu'on connaît le relais des postes, on va en parler tout à l'heure. Launois-sur-Vence, c'est combien d'habitants, monsieur Lombard?
Alors c'est 700 habitants, hein, constant, hein, voilà, 700 habitants, petite commune située entre Rethel et Charleville, près de Poitéron, village étape.
Village étape et puis village qui est connu par beaucoup d'Ardennais parce que dans l'histoire, il y avait à Launois ce qu'on appelle un relais de poste et c'est là que les diligences venaient. Est-ce que c'est bien ça, Yannick Lombard?
Tout à fait,
connaissez parfaitement l'histoire.
Voilà, tout à fait. Hein. Le relais de poste aux chevaux qui datait du XVIIe siècle. Hein. C'était à cette époque-là où les diligences s'arrêtaient. C'était la route de Paris. Hein. Les diligences s'arrêtaient et les voyageurs pour se restaurer, passer la nuit. Voilà. Donc c'est un site très remarquable puisque c'était une véritable cathédrale de poutre puisque les bâtiments sont restés tels que. Hein. Il n'y en a plus que deux en France de relais de poste comme
authentique,
le nôtre.
Authentique.
Authentique, tout à fait. Actuellement, c'est passé dans le giron de la communauté de communes, parce que c'est un site quand même qui coûte très cher à entretenir. Donc la commune ne pouvait pas prendre toute seule à sa charge, et c'est la communauté de communes des Crêtes Ardennaises qui s'occupait de la gestion. Actuellement, il est en restauration sur une bonne partie, le corps du logis, hein, qui va devenir une partie musée, une partie accueil pour l'office de tourisme qui va arriver dedans. Il y aura tout un cheminement qui sera fait à l'intérieur de façon à pouvoir retracer l'historique et puis voir un peu le vécu du relais. Et le relais actuellement est remis en activité plus ou moins puisque on a l'association des sabots du relais qui s'est installée au sein du relais qui remettent en valeur le cheval ardennais. Tous les visiteurs qui viennent, bon c'est quand même à peu près 60 000 visiteurs par an, hein, qui viennent dans ce relais, ont la chance de voir des chevaux ardennais au travail, puisque l'association s'occupe de former ses chevaux pour des particuliers, aussi bien pour faire le bûcheronnage, tout ça, et fait même des formations maintenant de palefreniers, de conducteurs de diligence éventuellement, auprès des centres de formation.
Ce qui est formidable, Yannick Lombard, c'est que lorsqu'on entre dans ce relais de poste à chevaux, à Launois, il y a une petite plaque tout en haut, qui indique, et c'est authentique, mais c'est impressionnant. Moi, ça m'avait toujours impressionné, même que j'étais très jeune à l'époque. C'est de voir que vous indiquiez sur ce panneau le temps qu'il fallait pour aller à Paris, le temps qu'il fallait pour aller à Reims. Enfin, c'était des diligences. Alors, combien ça se mesurait en jours, hein, d'ailleurs.
Oui, c'était en jour. Oui, il fallait plusieurs jours pour faire le cheminement. Tout à fait. Bon, je ne l'ai plus en mémoire. Mais
alors, extraordinaire, c'est quand on voit aujourd'hui où est implanté Launois à quelques kilomètres. Enfin, ça jouxte pas très loin de la 34, pas très loin de Voynich d'une certaine façon. Ça veut dire que toutes les voies de communication routière au cours de l'histoire, ils sont passés dans le même sillon. Vous avez la 34. Aujourd'hui, avec Voynich, vous aviez en parallèle la route nationale 51 qui était connue de tout le monde. Et puis, vous aviez une vieille route de Paris. Mais tous, ils sont parallèles. Et donc, les diligences, elles passaient d'une certaine façon aussi un peu par là.
Tout à fait, et même dans l'Antiquité, parce qu'on remonte aux Romains, nous avons la voie romaine qui passe à quelques centaines de mètres du relais des diligences. Donc vous voyez, ça a toujours été un axe principal, primordial pour la Belgique, pour Anvers, pour toutes ces choses-là. Quoi.
Et alors, c'est là qu'il y avait justement le courrier qui était mis ici dans ce relais ou qui était transporté ensuite. Là, c'était, j'allais dire, la pause. Et en fait, Launoy est demeuré une ville, un bourg, qui est très attaché à son histoire. Et puis aussi au fait qu'il est au carrefour de beaucoup de choses. C'est là, bon, il y a des gîtes, il y a des restaurants réputés, il y a aussi pas très loin la fameuse bière Ardouin. Enfin, je veux dire, il y a
Ardouin qui tout à fait. C'est vrai que on est fier de notre patrimoine historique. On essaye de le mettre en valeur. C'est pour ça que on essaye de mesurer tout. Actuellement, bon, on vient de finir l'assainissement. Là, on remet en valeur toutes les rues. On est en train de faire la réfection de toutes les rues. On s'est inscrit pour être dans la légalisation des villages étapes parce que là, je suis en train de faire construire, notre équipe fait construire une aire de camping-car à la sortie du village puisque c'est 600 camping-cars qui passent par an. Ça commence à, on a une vocation et le monde du cheval attire aussi des gens. Launoy, il y a quelques années, était la capitale de la brocante. Hein, ça a toujours été, pendant des années et des années, c'était une capitale, c'était les brocanteurs qui venaient. Voilà, donc il y a toujours eu un attrait pour ce village et qu'on essaye de remettre en valeur justement régulièrement.
Et pendant l'année, Yannick Lombard, il y a des rencontres culinaires, il y a des rencontres autour des livres. Et le relais de poste est un peu, j'allais dire, un écrin dans lequel on aime venir.
Déjà, c'est un site naturel qui s'y prête. Quand on voit la halle qui est immense, hein, avec ses poutres, c'est une cathédrale en fin de compte. Hein, bon, elle s'y prête. On fait le festival de l'imaginaire, on fait la maison du Père Noël, on fait beaucoup de choses. On fait les marchés, tous les marchés mensuels se font là. Les rencontres des associations maintenant se font ici. À chaque fois qu'on peut, on peut créer quelque chose. D'ailleurs, l'office culturel des Crêtes qui gère. Beaucoup de manifestations se font ici et quand on a des possibilités, beaucoup de mariages se font aussi dans ce site remarquable. Quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un site qui est très occupé, qui plus est dans le monde du cheval, là, ils viennent de faire une piste justement pour ces chevaux-là, pour faire des compétitions éventuelles ultérieurement. Donc voilà, c'est vraiment un site qui est mis en valeur. Quoi.
Alors on en parle bien sûr au cœur de l'hiver, mais même l'hiver. Et les Ardennes sont belles et on peut, vous qui connaissez les Ardennes par cœur, Yannick Lombard, moi je les connais moins que vous, mais je les connais un petit peu quand même. C'est vrai qu'on peut conseiller, non seulement aux Ardennais, mais ils savent, mais aux Rémois, lorsqu'ils viennent dans les Ardennes, de quitter quand même un peu la 34 et puis de prendre ces chemins de traverse en prenant la direction de Launoy, de s'arrêter à Launoy dans ce gîte étape, dans ce relais des chevaux, et puis de prendre l'ancienne route de Paris qui va à Charleville-Mézières, voilà, et qui passe, alors ça descend, ça monte, on prend la direction de Gendin, on prend la direction de Warnécourt, etc. Et là, on a vraiment une découverte exceptionnelle, mais il faut savoir quitter l'autoroute A34.
La vieille route, effectivement, on appelle ça les bornes, les fonds de Bordeuil, où dans le temps les attaques de diligence se faisaient par
attaques de diligence, c'est formidable. Merci
Yannick Lombard. La vieille route est remarquable.
Merci Yannick Lombard d'avoir été avec nous, maire de Launoy dans les Ardennes. Au revoir monsieur le maire et à bientôt sur RCF.
Allez, au revoir et toujours merci.
Quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce jeudi 25 janvier, l'association Le Centre Ressources de Reims qui accompagne les personnes malades du cancer et leurs aidants revient avec de nouvelles animations pour le grand public en 2024. Première manifestation prévue demain soir. Les salons Ma Maison, Mes Projets et Mes Vins, Mes Envies reviennent du vendredi 3 au dimanche 5 février au Millésium d'Épernay Découverte.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Les agriculteurs sont toujours mobilisés à travers l'Hexagone. La Champagne-Ardenne n'y fait pas exception. Les préfectures recommandent tant que possible de reporter les déplacements. Le temps de trajet habituel entre Rethel et Reims est presque multiplié par 3. Ne prenez la voiture que si nécessaire, toujours avec la plus grande prudence. Demain, des opérations escargots sont prévues dans la Marne. On en parle dans quelques minutes avec le journaliste Hervé Chabot. Le centre ressources de Reims qui accompagne les personnes atteintes de cancer et leurs aidants dans une reconstruction avec des ateliers de mieux-être pendant le traitement et après vous convie à 2 événements en ce début d'année 2024. Le premier, dès demain, un concert est organisé par l'association partenaire des Ladies Circle. Présentation avec Denis Jaunet, vice-président du centre ressources.
Voilà un concert qui est organisé par l'association les Ladies Circle de Reims. Donc c'est une association, un club de service qui regroupe uniquement des femmes de 18 à 45 ans autour d'une devise « amitié et entraide ». Donc en 2024, les Ladies ont décidé d'apporter leur soutien au centre ressources et ça sera leur première action, leur premier événement 2024 avec ce beau concert le 26 janvier à partir de 19h au Conservatoire de Reims. On peut s'inscrire sur Hello Asso en tapant « concert les amoureuses, les Ladies hein, » et on a un lien pour payer sa place sur Internet. Où les personnes peuvent également payer la place le jour, le vendredi, quand ils viendront au conservatoire. Voilà, c'est passé un bon moment parce que vous allez avoir un répertoire de Carmen à nos jours, très éclectique, avec deux virtuoses, et justement mener une action caritative pour une association telle que le Centre Ressources de Reims.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. Le rendez-vous est donné au Conservatoire de Reims ce vendredi à 19h. Entrée 10 euros, 5 euros pour les enfants. Puis d'ores et déjà, vous pouvez noter dans votre agenda que dans 8 jours, le vendredi 2 février à 19h, à l'Hôtel de Ville de Reims, une soirée théâtrale est organisée en présence de Marie Drucker, marraine du Centre Ressources de Reims. Soirée ouverte à tous sur inscription. Ce vendredi, l'Université de Sciences économique de Reims et l'Université populaire d'écologie de la Marne vous invitent à 18h à l'amphi 4 de la faculté de lettres dans les coquilles donc pour participer à la conférence débat avec Caroline Rose, députée européenne en charge de la condition animale, sur le thème « Faire évoluer la condition animale dans la filière de l'élevage ». Des éleveurs locaux témoigneront également. Journée de mobilisation ce vendredi contre la lèpre avec en particulier une opération de sensibilisation prévue dans les rues du centre-ville de Reims, ce vendredi à partir de 14h, une mobilisation qui se poursuivra tout au long du week-end avec des actions organisées à travers toute la France. L'année du Millésium débute avec deux grands salons. La salle de spectacle d'Épernay accueillera du vendredi 26 au dimanche 28 janvier deux événements en un, Ma Maison, Mes Projets et Mes Vins, Mes Envies, que nous présente l'organisatrice Véronique Magrou.
C'est deux événements sur un même lieu. Donc un salon, c'est le rendez-vous de l'habitat, de la rénovation et de l'aménagement intérieur-extérieur qui est présent sur Épernay depuis bientôt plus de 15 ans. Et puis, depuis 4 ans, le rendez-vous des vins et gastronomie qui vient s'associer à ce rendez-vous sur le dernier week-end de janvier. On va parler d'abord de Ma Maison, Mes Projets. C'est la rénovation, l'aménagement de la pergola, de la véranda, c'est du mobilier. Toutes les problématiques énergétiques, évidemment, puisque le salon est plus qu'un espace d'exposition, mais aussi un lieu de conseil. Donc on a le plaisir de proposer des espaces vraiment de conseil et d'accompagnement au projet pour tous les visiteurs. Et puis sur la partie des vins, eh bien écoutez, c'est plus de 40, voire presque 50 appellations que les gens vont pouvoir venir découvrir et déguster, échanger avec les producteurs. Et puis faire plaisir aussi du côté de la gastronomie, des produits gourmands avec des produits de salaison, du chocolat, de la guimauve, des produits d'épicerie fine à la truffe. Tout un ensemble de producteurs qui sont présents tout week-end pour faire déguster et découvrir.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Comme l'an dernier, l'accès aux deux salons sera gratuit sur inscription préalable sur le site officiel de l'événement Plus d'infos, billetweb.fr/épernay. Sport, basket, les Flammes Carolo se donnent de l'air. Vainqueur de Tarbes 73-53 hier soir dans un match en retard de la 7e journée de Ligue féminine. Elles mettent fin à une série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et surtout, elles dépassent leur adversaire du soir au classement et remontent à la 7e place après 13 journées. De quoi souffler avant un nouveau déplacement périlleux à Lyon samedi soir. Tout de suite, la météo avec Elsa Gillot. Bonsoir Elsa.
Bonsoir Alexis.
Quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne ce vendredi ?
Dans la Marne, la journée sera globalement ensoleillée, mais avec un mercure qui rétrograde entre 2 et 12 degrés. Dans le ciel au bois, des nuages, avec des rayons de soleil très discrets en soirée et un thermomètre qui affichera entre 0 et 12 degrés. Chez les Ardennais, quelques gouttes de pluie en matinée et du soleil tout le reste de la journée avec des minimales de 0 degré et des températures maximales à 10 degrés. Quelques gouttes de pluie en Haute-Marne, mais des rayons de soleil tout de même en soirée et un mercure entre 0 et 10 degrés. Et demain, nous fêterons les pôles.
On se joint à vous pour souhaiter en avance une très bonne fête à tous les pôles. Merci Elsa. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue, toujours avec Pierre-Louis, notre autre stagiaire, qui continue de nous observer avec attention ce jeudi soir.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
On va prendre de ces nouvelles d'ailleurs avant de continuer cette émission. Pierre-Louis, vous venez en bus, vous à la rédaction, vous venez de Vitry-les-Reims. Ça va, vous n'êtes pas embêté sur la route pour l'instant? Les agriculteurs ne bloquent pas encore les routes entre Vitry-les-Reims et Reims?
Non, on est plutôt tranquille pour ça.
Pour l'instant, ça va. Attention, on l'a dit dans le journal, opération escargot prévue demain dans les principales villes du département. Reims pourrait être concerné et on reste sur la situation du monde agricole en France avec Hervé Chabot, journaliste, éditorialiste. Il pose son regard sur l'actualité du moment avec Jean-Pierre.
Hervé Chabot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors l'actualité, Hervé, c'est en ce moment les manifestations des agriculteurs dans un contexte un peu difficile.
Dans un contexte particulièrement difficile, avec notamment cette tragédie qui s'est produite en Ariège, avec le décès d'une agricultrice et d'une de ses filles, ce qui est véritablement un choc considérable, non seulement pour le monde agricole, mais pour la population d'une manière générale. Ce sont des manifestations qui, à mon avis, n'ont pas été observées comme il le fallait dans un premier temps, car c'est un mouvement européen. On avait déjà vu des choses se passer aux Pays-Bas, ça a été regardé d'une manière sans doute un peu trop légère. On a vu également la situation se durcir ces dernières semaines et ces derniers jours également en Allemagne, et on a vu le mouvement également gagner la France, ce qui atteste véritablement qu'il y a entre les différents agriculteurs au sein de l'Union européenne, les institutions européennes, les gouvernements, des incompréhensions, voire des divergences qui provoquent un niveau de colère tel que maintenant les agriculteurs sont dans la rue.
Hervé, mais est-ce que c'est pas aussi la mise en place d'une Europe des normes qui était prévisible, qu'on voit subitement émerger, mais l'observateur que vous êtes, c'est bien ça depuis des années?
Alors, tout à fait. Il y a véritablement le problème des normes qui sont en beaucoup trop grand nombre. Et je voyais récemment, une dizaine de jours, des agriculteurs qui souhaitaient s'adapter à l'écologie moderne, c'est-à-dire replanter un certain nombre de haies. Lorsqu'ils m'ont montré le dossier qu'ils devaient remplir pour pouvoir bénéficier d'une aide dans ce cadre-là, j'ai été tout à fait stupéfait. Il y a trop de normes, c'est un phénomène tout à fait réel. Et cela s'ajoute à un phénomène sociologique dans ce pays, mais même en Europe, d'une phobie administrative qui est galopante au sein des familles, chez les gens. Les gens en ont ras-le-bol, si je puis m'exprimer ainsi, d'avoir des papiers à faire, à re-remplir, de subir parfois aussi la dématérialisation avec cette obligation de le faire sur des supports qu'ils ne maîtrisent pas toujours.
Mais est-ce qu'en filigrane, et il n'y a bien sûr pas d'assimilation à faire, mais entre une Europe des traditions agricoles, d'une France agricole et d'une Europe mondialisée, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de ça, parce qu'on essaye de tout réglementer pour qu'il y ait des grands espaces, mais que vont devenir nos agriculteurs?
Absolument, parce qu'on le voit sur ces dernières années, la perte d'influence de l'agriculture française, malheureusement, est une réalité, alors qu'il y a des agriculteurs et des agricultrices qui ont fait des efforts considérables en termes d'adaptation à la fois aux nouvelles technologies, à la fois aux nouveaux matériaux, à la fois aussi à la prise en compte de l'environnement, et qu'il voit dans le même temps que l'ouverture des marchés fait que des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes qu'eux et qui notamment n'ont pas l'interdiction d'utiliser un certain nombre de produits, réussissent à produire moins cher, à faire venir nos produits sur nos territoires et à eux se retrouver en difficulté alors qu'ils ont des produits plus sains à proposer à la population.
Et puis si on regarde l'équation écologique, Hervé Chabot, quand on fait venir des produits du bout du monde, il y a quand même un problème de CO2, un problème de transport.
Il y a une empreinte carbone,
il y a une empreinte carbone considérable.
C'est clair.
Et c'est là qu'on voit peut-être la distinction entre une écologie punitive d'une écologie de protection. Ça vous tient à cœur?
Tout à fait. Parce que véritablement, le ressenti qu'il y a chez les agriculteurs, c'est que bon nombre des normes qui ont été imposées correspondent à l'attribution d'une écologie punitive. Ils en ont marre que l'on leur impose des choses extrêmement techniques, qu'on n'arrête pas de leur faire une leçon de morale sur la manière dont ils travaillent et dont ils s'investissent dans leur métier. Et eux sont favorable à une écologie, mais ce qu'ils appellent une écologie de protection, c'est-à-dire améliorer les terroirs, assurer une protection des espèces également qui peuvent vivre sur ces terroirs, produire mieux d'une manière qui est toujours plus saine. Et cette réalité-là, ils considèrent qu'on ne les entend pas, qu'on les classe d'une manière un petit peu brouillonne chez une catégorie de gens qui se moqueraient totalement des problèmes de l'environnement alors que c'est totalement faux. Et ils ont l'impression, bien sûr, d'être méprisés dans ce cadre-là. À partir du moment où on ne regarde pas ce qu'ils font, à partir du moment où on ne va pas passer une, deux ou trois journées dans une ferme, dans une exploitation pour voir comment les choses se passent, et que l'on décide de normes, j'allais dire presque bureaucratiques d'une certaine manière, on n'est pas du tout adapté à la réalité. On ne peut pas créer de bons textes, on ne peut pas créer de bonnes lois si on n'est pas sur le terrain pour voir comment les choses se passent avant d'élaborer une législation.
On pense à nos agriculteurs ardennais et marnais qui, on le voit au quotidien, sont les premiers aménageurs du territoire.
Ce sont des aménageurs du territoire. N'oublions pas que si jamais ils disparaissaient en nombre, là on aurait véritablement des campagnes totalement invivables d'une certaine manière, avec des broussailles qui arriveraient partout, enfin avec des paysages qui seraient totalement dénaturés. Mais encore faut-il là aussi qu'ils puissent se projeter dans l'avenir, qu'ils puissent construire leur avenir, qu'ils puissent penser également à leurs investissements, aux revenus qu'ils vont avoir. Quand vous observez par exemple que sur un litre de lait on voit une baisse du litre de 6 centimes, alors que lorsqu'on va acheter nos packs de lait dans les magasins, le prix, lui, ne baisse pas du tout. Et dans le même temps, les agriculteurs ont une augmentation des charges de l'énergie, ont une augmentation également du coût des aliments qu'ils peuvent donner à leur bétail, etc. Donc, le rendez-vous n'est pas là, le rapport n'est pas là. On ne peut pas continuer à une baisse du revenu agricole quand on sait également que l'on a à peu près aujourd'hui un agriculteur sur cinq dans ce pays qui est au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté.
Est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait avoir un embrasement des campagnes? Est-ce qu'on peut dire que d'ici quelques jours, il y aurait des manifestations importantes?
S'il n'y a pas de réponse d'apporter, s'il n'y a pas des engagements pris, s'il n'y a pas un calendrier très clair qui est annoncé à la profession, il y a effectivement des risques de surchauffe et d'aggravation de la situation d'une manière générale. Il faut faire attention toujours lorsque des personnes sont excédées, au bout du rouleau, exaspérées des choses qui peuvent se produire. Il y a véritablement un besoin d'apaisement, et ce ne sont pas seulement les gouvernements et le gouvernement français qui doivent agir, c'est également à l'Europe de comprendre cette situation et aux élus qui représentent les différentes nations européennes au sein du Parlement.
Vous avez posé là sans doute, Hervé Chabot, la vraie question. Est-ce que le gouvernement français peut prendre des mesures seul? C'est-à-dire qu'il peut avoir les meilleures intentions du monde, mais les décisions sont prises à Bruxelles.
Alors il peut le faire sur un certain nombre de domaines, mais il y a aussi l'obligation de travailler à Bruxelles. Il ne peut pas être seul dans cette opération. Et là aussi, il faudrait qu'il y ait un rapprochement avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne notamment, mais avec d'autres aussi, pour pouvoir trouver véritablement quelles sont les bonnes clés de manière à rendre à l'agriculture française et à l'agriculture européenne d'une manière générale, son sourire d'antan. Je rappelle quand même que la réforme de la politique agricole commune avait été adoptée pratiquement par tous les partis, acceptée par tous les partis. On voit la situation telle qu'elle est. Il y a véritablement besoin de se remettre au travail.
Merci à tous les deux, notamment à Hervé Chabot, pour son analyse. On suit la situation de près, évidemment, sur RCF en région.
Le 18-19 sur RCF.
En ce début d'année 2024, la rédaction de RCF vous propose de partir à la rencontre des maires de notre territoire afin de découvrir les différents projets et événements pour cette nouvelle année. Zoom ce soir sur la ville d'Épernay avec son maire, Christine Mazzi, qui est en ligne avec Christopher.
Christine Mazzi, bonjour et bonne année à vous.
Merci, tous mes voeux également à vous.
Merci, maire d'Épernay, merci d'avoir accepté notre invitation en ce début d'année 2024, une année marquée par de grands projets pour la ville sparnassienne, notamment le parking souterrain sur le Jard, en plein centre-ville d'Épernay. Commencé durant l'été 2022, cet équipement verra le jour en fin d'année 2024. On peut le dire, Christine Mazzi, que ce grand projet sera un vrai tournant pour le centre-ville sparnassien.
Oui, effectivement. En fait, la construction de ce parking souterrain qui sera livré au mois de septembre de cette année. Donc, je le rappelle, c'est un parking de 400 places réparties sur 6 niveaux en centre-ville. C'est en fait le préalable au réaménagement de l'esplanade que l'on appelle le Jard. Puisque par la suite, à l'issue de la construction de ce parking, donc nous aurons la création d'un parvis au-dessus du parking, et puis par la suite, l'aménagement d'un parc public entre la place de la République et l'ancien palais de justice.
Alors concernant ce parking souterrain, Christine Mazzi, quelles sont les dernières étapes du chantier avant sa livraison en fin d'année ?
Donc là, aux dernières nouvelles, nous en étions à la construction de la dalle de surface. Donc ensuite, il y aura, je le disais tout à l'heure, l'aménagement du parvis. Et puis, au niveau du parking, c'est tout l'aménagement intérieur, bien évidemment.
Alors, on parle du parking, on parle du parvis, aussi les travaux de l'immeuble de standing qui se trouve dans ce secteur aussi.
Oui, tout à fait. Donc l'immeuble qui se construit entre la sous-préfecture, à côté de la sous-préfecture, dans ce que l'on appelait la poche du Jard, et pour lequel les travaux ont effectivement démarré.
Alors on peut le dire, c'est quand même un renouveau qui va se dessiner quand on rassemble à la fois le parking souterrain, le parvis, l'immeuble de standing. Ça donne vraiment un nouvel élan, un nouveau visage pour le centre-ville d'Épernay. J'imagine que pour vous, en tant que maire, depuis peu, suite à la succession de Franck Leroy, malgré tout, vous étiez au conseil municipal depuis de nombreuses années. Donc, vous connaissez bien Épernay depuis un certain temps. C'est quand même un vrai tournant pour la ville sparnassienne.
Oui, complètement. Comme vous le disiez, c'est effectivement un projet qui a été initié il y a quelques années, mais cela va vraiment transfigurer, je dirais, le centre-ville d'Épernay au niveau de la place de la République, où on va avoir ce grand changement, puisque cette grande esplanade minérale va être remplacée par un parc arboré.
Alors tout ce grand projet, Christine Mazzi, j'imagine, c'est financé par la ville, mais pas seulement, vous avez quand même de nombreux acteurs qui vous accompagnent dans ces différents projets.
Oui, bien sûr, donc nous sommes accompagnés par l'État et puis également par la région.
Christine Mazzi, l'année 2024 sera marquée par la construction également d'une passerelle aérienne qui reliera la gare d'Épernay au futur quartier des Berges de Marne. Quel est l'objectif de cette passerelle concrètement ?
La construction de cette passerelle va permettre de relier en fait le centre-ville historique au futur quartier Berge de Marne. Hein, donc nous l'appelons la passerelle passe-quartier, et ça va vraiment permettre de désenclaver le futur quartier Berge de Marne et de donner un accès au niveau de la gare avec l'Épernay historique, je dirais. Pour l'instant, la construction n'a pas encore démarré. Sa construction devrait être terminée en 2025. Pour l'instant, nous venons de choisir l'entreprise qui construira cette passerelle. Les travaux n'ont pas encore démarré. Ils vont démarrer prochainement, concomitamment au réaménagement du parvis de la gare et de la création du pôle d'échange multimodal.
C'est un projet ville-aglo,
Effectivement, donc c'est un projet ville agglo puisque c'est l'agglomération d'Épernay qui a la compétence transport.
Christine Mazzi, maire d'Épernay, avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF depuis la mairie d'Épernay dans votre bureau. Merci une fois de plus d'être avec nous pour nous présenter eh bien, ces différents projets pour cette année 2024 du côté d'Épernay dans la Marne. Un petit mot quand même sur les autres projets peut-être entre guillemets un peu plus lointains si je peux dire en termes d'importance du chantier, c'est à la fois ce nouveau commissariat d'Épernay et puis la nouvelle crèche du côté de Bernon.
Oui, alors effectivement, la nouvelle crèche, hein, nous allons construire une nouvelle crèche qui va nous permettre là aussi d'augmenter notre capacité d'accueil et puis d'offrir à la fois aux enfants et à nos agents des conditions de travail plus agréables. Et puis c'est une crèche aussi qui permet de répondre dans sa conception aux exigences environnementales. Et puis le commissariat, donc là, c'est bien sûr un projet qui est porté par l'État, mais un commissariat qui va permettre là aussi et aux administrés et puis aux agents de police de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que tous les Sparnassiens ou tous ceux qui ont été amenés à entrer dans ce commissariat connaissent bien son état. Un peu, j'allais dire, bon, sans dire délabré, on mettrait peut-être pas délabré, mais en tout cas son état de vétusté.
Oui, Christine Mazzi, maire d'Épernay, avec nous aujourd'hui sur RCF. On a parlé la semaine dernière avec Franck Leroy, président de la communauté d'agglomération d'Épernay Agglo Champagne. Ce côté biodéchets, cette loi qui a été mise en place depuis le 1er janvier 2024 en termes de biodéchets, j'imagine que pour vous, en tant que maire d'Épernay, vous allez accompagner l'ensemble des acteurs, notamment l'agglomération, justement, vers cette nouvelle façon de trier ces déchets.
Alors, bien évidemment, nous y sommes attentifs. Alors, au niveau de l'agglomération, il y a un certain nombre de personnes qui vont pouvoir, là aussi, accompagner les usagers, parce qu'il va falloir beaucoup communiquer, beaucoup former. Il y a, je pense, encore du travail à faire, mais bien évidemment, nous sommes, ne serait-ce qu'au sein de notre collectivité, attentifs à ce que les déchets soient bien triés. Donc, sans pour nous.
Avant de nous quitter, Christine Mazzi, parlons de cette année olympique, avec le passage de la flamme dans votre commune le 30 juin prochain. On peut le dire, un moment fort et exceptionnel que les Sparnassiens auront la chance de vivre dans les prochains mois.
Oui, tout à fait. Donc Épernay sera une ville dans laquelle la flamme olympique va passer, où vont se succéder un certain nombre d'athlètes, ou en tout cas de personnes qui porteront cette flamme. Donc oui, c'est un événement. Les Jeux olympiques en France, c'est un événement. Les Jeux olympiques à Paris, nous sommes très proches. Nous pensons bien évidemment que nous aurons des répercussions en termes de fréquentation touristique du fait de la proximité de Paris et de ces Jeux olympiques.
Voilà, le tout avec le champagne sur votre territoire.
Bien évidemment. Alors, je ne sais pas si... En tout cas, les victoires se fêtent, j'espère, se fêteront au champagne.
Eh bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, Christine Mazzi.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, maire d'Épernay, on vous souhaite encore une fois de plus une très bonne année et à très bientôt sur RCF.
Mais écoutez, merci à vous et bonne journée également.
Merci Christine Mazzi et Christopher Fausten. Dans la Marne, le passage de la flamme olympique aura lieu le 30 juin sur un parcours passant par Vitry-le-François, Giffaumont, Sainte-Menoux, Châlons-en-Champagne, Sézanne, Épernay et Reims.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et c'est le petit moment bonus ce soir, c'est le petit plus, c'est les 240 secondes de Suzanne Joss qui pose son regard sur un thème d'actualité qui intéresse les jeunes.
Bonjour à tous, c'est Suzanne, vous écoutez RCF. Bienvenue sur 240 secondes, l'émission qui parle des jeunes. La jeunesse, ce moment de la vie où l'on se découvre des passions, où l'on réalise ses rêves et où on peut façonner le monde à sa façon. Cet épisode de 240 secondes est dédié à 4 jeunes qui ont marqué l'année 2023 par leur engagement ou leur talent et qui continueront à briller en 2024. Sport, médias, musique, il y en a pour tous les goûts. Je vous les présente en 240 secondes, alors si vous êtes prêts, top chrono! On commence cette chronique avec deux sportifs de haut niveau français qui se sont affirmés sur la scène internationale. D'abord, vous avez sûrement dû déjà entendre parler du basketteur Victor Wembanyama. Il fait 2m24 et le français vient d'avoir 20 ans ce 4 janvier et il a raflé tous les podiums en 2023. Il quitte l'année en étant sacré meilleur joueur, meilleur défenseur, meilleur jeune et membre du meilleur 5 de la saison. C'est absolument exceptionnel. Le basketteur est originaire du Chennai et il évolue au poste d'ailier fort et de pivot pour les Spurs de San Antonio en NBA. Cette année s'annonce tout aussi décisive pour lui puisqu'il participera dès cet été aux Jeux Olympiques 2024 avec, on l'espère, une belle victoire de la France. Toujours pour rester dans le sport, comment ne pas parler de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de handball féminin ? Une belle victoire bleu-blanc-rouge qui met à l'honneur la réussite sportive de la France en 2023. Dans l'équipe de France féminine de handball, je me suis particulièrement intéressée à Léna Granvaux, une sportive de 20 ans et dont la carrière, pourtant déjà brillante, ne vient que de commencer. C'est elle qui a marqué les 4 derniers buts de son équipe en finale, permettant à la France de s'imposer face à la Norvège lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en décembre dernier. À 5 ans, elle a commencé le handball et elle est devenue une vraie prodige dans sa discipline. Elle était tellement impressionnante, déjà plus forte dans le jeu que les garçons de son âge, il fallait être aveugle pour ne pas voir son talent, avait déclaré Jean-Marc Joly, président du Beaune Handball, où Léna avait débuté sa carrière. La jeune Française attend patiemment, elle aussi, les Jeux Olympiques pour porter ses couleurs encore plus haut. Avec cette victoire face à la Norvège, l'équipe de France de handball féminin met à l'honneur les femmes dans le sport, et ça, c'est important. On va passer désormais à une toute autre catégorie, la catégorie média, où je vais vous parler d'Hugo Décrypte. À seulement 26 ans, Hugo Travers, surnommé Hugo Décrypte sur ses réseaux sociaux, a révolutionné les médias. Tout débute en 2015, lors de sa première année à Sciences Po, où il lance sa chaîne YouTube, dans laquelle il publie des vidéos où il informe les jeunes de l'actualité et des enjeux du monde contemporain. Il est désormais suivi par 3 200 000 personnes sur Instagram. Il y publie du contenu chaque jour, et notamment un post nommé « Les 5 actus du jour », un post qui résume l'actualité et qui est très suivi par les jeunes. Hugo Travers a désormais une équipe, il travaille avec des journalistes et des experts des médias. Sur sa chaîne YouTube, on retrouve des concepts plus larges, on peut y trouver des reportages ou des interviews. En 2023, il avait par exemple interviewé Emmanuel Macron, Christopher Nolan ou encore Hugh Jackman. En ces temps où la désinformation et les rumeurs dominent, il est important de bien s'informer en suivant des médias de confiance et qui sont fiables, comme celui créé par Hugo Travers. Le jeune homme a d'ailleurs été décoré en 2023 chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et pour terminer cette chronique, pourquoi pas parler de musique ? Je vais vous présenter une artiste locale, future star de la scène française, Silda. Elle est née à Reims et originaire de Vauclair, et vous la connaissez peut-être pour son passage à The Voice en 2023, où elle avait interprété une musique d'Axel Red. La chanteuse, auteure et interprète est née en 1999 et elle joue d'un drôle d'instrument, le kalimba. C'est un instrument à percussion africain qui donne une sonorité particulière et un vrai charme à ses musiques. En 2022 et 2023, elle a fait les premières parties de Mika, Mathieu Chédid, Christophe Maé ou encore du chanteur RZA. Ses chansons aux airs pop-folk séduisent de plus en plus d'auditeurs chaque jour, surtout depuis qu'elle a été invitée à faire un duo sur l'album de Julien Doré en 2022 avec le titre « Nous » en version acoustique. Silda, qui s'écrit donc S-I-L-D-A, est une artiste à suivre de très près et je vous conseille vivement d'écouter ses musiques qui réchaufferont ces jours pluvieux de janvier et qui vous feront passer, j'en suis sûre, une très belle année 2024. Et voilà, les 240 secondes se sont écoulées. Merci de les avoir passées avec nous. J'espère que ces 4 portraits vous motiveront et vous inspireront pour le reste de l'année. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique sur RCF.
Merci Suzanne, on termine cette émission sur ces bonnes paroles et on se retrouve demain 18h10 pour un nouveau magazine régional où nous serons notamment avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il sera l'invité de la rédaction de RCF Reims-Ardennes avec Jean-Pierre Benoît dès 7h demain matin. Dans quelques instants, c'est l'information nationale sur RCF qui prend le relais. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonne soirée Elsa.
Bonne soirée Alexis.
Bonne soirée Pierre-Louis.
Bonne soirée à tous.
On se retrouve demain 18h10 pour votre dernière, la der des der, comme on dit.